Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Cette légende, ma grand-mère me l'a aussi apprise, en me précisant que ce mythe alimentaire n'avait rien d'ancien et que, comme celui des autres régimes, il datait du commencement de la fin de la fin. Je le trouve très amusant. Au commencement était la levure. La levure était avec Dieu. La levure était Dieu. Et elle créa la terre, qui elle couvrit de végétaux et peupla d'animaux, puis, inspirée, et elle ajouta des champs de céréales dont il fit de la farine. Alors, elle modela dans la farine mouillée de sa divine salive deux êtres androgynes, tous deux à sa ressemblance. Dans le four divin, les premières humaines, qui étaient pourtant de bonnes pattes, gonflèrent tant que l'orgueil et la prétention s'emparèrent d'elles. Craignant que les deux bouts de pain ne s'opposent à sa volonté, Dieu en grignota des morceaux, un pour chaque créature, afin de leur apprendre l'humilité. Quant à savoir quelle partie elle préleva, les versions varient. J'aime beaucoup celle qui raconte qu'elle arracha une oreille de l'un qui deviendrait homme, incapable d'écouter, et le pénis à l'autre, créant l'espace dans lequel la femme accueillerait l'avenir de l'humanité.
Cathy Stewart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, poétesse, novelliste et romancière. Vous êtes l'une des figures de la science-fiction en France. Votre roman « L'Évangile selon Myriam » a remporté le prix Rosny Aîné en 2022. Vous êtes également docteur en psychologie. Alors, on reviendra sur ces multiples expériences qui vous ont mené jusqu'à l'écriture. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à votre dernier roman.
« Foodistan ».
Publié aux éditions Argile et dont vous venez de nous lire un extrait. Dans ce roman, vous inventez une nouvelle société, une société bâtie sur les ruines d'un ancien monde, celui qui a vu différentes crises sanitaires et climatiques se succéder et qui a dû faire face à une immense crise alimentaire, la grande fin du monde, FIM, de laquelle les humains se tirent de justesse, pour reprendre une expression employée par l'un de vos personnages. Alors, dans ce nouvel état que vous baptisez Foodistan et qui occupe géographiquement l'ancien territoire de la France, l'organisation de la société s'est construite autour de l'alimentation des individus. Plus de divisions sociales liées à la richesse matérielle ou au genre, ou en tout cas des divisions sociales classiques comme on en connaît actuellement, mais des groupes d'individus qui ont en commun, ces individus, une même façon de s'alimenter ou plutôt de se sustenter. Donc on a entre autres les pastavores, les soupeux, les panivores. Chacun de ces régimes a élaboré ses propres mythes, ses propres coutumes. Ce dernier groupe, donc les panivores, c'est celui auquel appartient Maël, votre personnage principal. Alors, comme beaucoup de récits de science-fiction, et c'est ce qui rend, je trouve, pour ma part, la lecture de la science-fiction si excitante, c'est qu'on découvre petit à petit le futur dans lequel on évolue, en glanant des informations distillées ça et là, comme un puzzle à reconstituer. Et ici, c'est en partie grâce à Maël que l'on parvient à décrypter ce futur, à comprendre ce qui s'est passé avant la grande faim. Et il y a aussi des références à l'ancienne France, notre France actuelle. Alors si en premier lieu on sourit de redécouvrir nos traditions complètement dépouillées de tout affect, il y a un passage assez drôle sur Noël que je laisse les auditeurs découvrir tout seuls, mais derrière ce premier ressort comique, si je puis dire, il y a une dimension quand même très politique. Alors se questionnant sur notre propre mode de vie, est-ce que d'après vous, c'est une des vocations ou des objectifs de la science-fiction? Et pourquoi cette fois-ci ce choix de se questionner sur la place de l'alimentation dans notre société?
Alors oui, en effet, je considère que la science-fiction peut faire plein de choses. Elle peut nous divertir, elle peut nous permettre de nous échapper du monde, elle peut nous permettre d'imaginer d'autres choses. Et moi, je m'en sers vraiment pour faire un pas de côté concernant le monde, les questions qu'on ne se pose plus, nos évidences, les choses qui semblent avoir toujours été là. Et utiliser la manière d'écrire de la science-fiction, ça permet d'avoir un regard, alors soit un regard extraterrestre, soit un regard de machine parfois, ou un regard de quelqu'un d'une autre société, d'une autre époque. J'aurais pu faire un univers parallèle. J'ai préféré m'amuser à faire du futur. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit suffisamment différent, avec des fonctionnements différents, depuis lequel on va regarder comment fonctionne notre monde actuel. Et quand on fait ça, en fait, c'est ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait rien du fonctionnement de cette personne. Parfois, on a des a priori sur le fait qu'on partage beaucoup de choses en commun. Et puis, comme quand on lit de la science-fiction, parfois, on va avoir des petits détails qui vont nous faire comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on va, pareil, glaner des informations et se rendre compte que bah, y a tout un univers qui n'est pas tout à fait... le même que le nôtre. Donc pour moi, ça sert aussi à ça, la science-fiction, avec un peu l'idée de dénoncer ce qui doit l'être, mais aussi vraiment apprécier ce qui mérite d'être apprécié aussi en étant redécouvert. Est-ce qu'on regarde des chaises tous les matins en se disant « mais c'est merveilleux comme invention ?» Bah non, mais en science-fiction, on peut.
La grande faim a été l'occasion de repenser les principes de production alimentaire et de saisir l'ampleur du gaspillage en vigueur dans les pays considérés comme les plus évolués. Quand on se penche sur les archives qui montrent la vie quotidienne des habitants de ce qui est devenu le Foodistan, c'est l'étonnement qui domine face à l'absurdité des choix et des situations. Les inégalités de moyens entre les mieux nourris et les autres étaient vertigineuses, inconcevables ici et insensées en regard de leur espérance de vie comparable à la nôtre. Quel intérêt de posséder de quoi nourrir sa famille entière pendant 30 siècles ? Parmi les critères de distinction, le genre social, par exemple, prenait une importance irrationnelle. Je fais des efforts chaque fois que j'y pense pour ne pas juger. J'essaie d'imaginer ce que ça faisait de vivre avec de telles évidences et je me demande quelle aurait été la réaction de ces personnes si elles voyaient notre organisation fondée sur l'alimentation. Elles s'en étonneraient probablement. Toujours est-il que même s'agissant de se nourrir, et elles avaient des habitudes qui, à nos yeux, tiennent clairement de la barbarie.
C'est un peu parfois une incompréhension de Maëlle, en fait, quand elle repense à l'ancien monde. Et cette incompréhension de Maëlle, elle contraste avec l'approche très scientifique de l'historien Hector Vugo, qui nous fait le bonheur d'ouvrir certains de vos chapitres, enfin dans les extraits de ces écrits scientifiques. Alors il y a un aspect très clinique dans les descriptions de cette ancienne société, et c'est la posture de l'historien en fait qui force cette prise de recul. Mais un historien qui ne peut quand même pas s'extraire tout à fait de son temps, quoi, parce qu'il analyse tout à travers le prisme de la place qu'occupait la nourriture, et ça rend, je trouve, encore plus... Enfin, ça permet de rendre encore plus compte de l'absurdité. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de dimension politique à vos écrits.
C'est à la fois politique, moi je dirais même que c'est philosophique, dans la mesure où, quand on prend nos historiens d'aujourd'hui, ils ont beau faire des efforts pour comprendre ce qui se passait dans des périodes qu'ils n'ont pas connues, on regarde à partir, en fait, tous les regards sont situés, c'est un peu ça le propos, tous les regards sont situés. Et là, s'il y a quelque chose d'un peu caricatural de le situer dans une société dans laquelle on comprend très bien ce qui est important et ce qui n'est pas important, c'est très simple. Chez nous aussi, c'est très simple. Hein. On voit très bien ce qui compte et ce qui ne compte pas. L'économie compte, le reste pas trop. Mmh. Et donc, ça fait un parallèle qui fait sourire et puis qui fait sourire jaune après parce que ouais, c'est pas si différent que ça, quoi. Et c'est ça aussi que permet la science-fiction, c'est mettre un peu de projecteur sur des manières de faire qu'on ne regarde plus.
Oui, parce qu'elles sont entrées dans nos habitudes et on ne fait plus parfois cet effort intellectuel. Je ne sais pas si c'est un effort intellectuel, mais en tout cas, cette posture intellectuelle est questionnée, quoi.
Bah, alors... Je pense qu'on serait mal si on le faisait tout le temps. Moi, je le fais tout le temps, mais j'écris, donc ça va.
Ouais. Ça vous permet d'évacuer un petit peu.
Oui, ça permet en tout cas de faire quelque chose de cette posture qui n'est pas très confortable, en fait, de passer son temps à se demander pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement.
Alors justement, puisqu'on parle des choix et de faire autrement, et tout ça, il y a aussi, je trouve, dans ce livre, une question sur le choix individuel, enfin sur... qui semble être un peu plus grand que dans notre société actuelle, puisque même s'il existe encore des strates sociales, on reviendra après hein, sur ces... Parce que peut-être que depuis le début de l'émission, vous avez remarqué qu'il y a des mots où on a l'impression que ma langue a fourché, mais en fait, pas du tout, on y reviendra après. Donc, même s'il y a encore des strates sociales, c'est pas ce qui semble vraiment être au fondement de la société. Par exemple, le régime alimentaire de la vanille de Maëlle n'est pas celui qu'elle choisit ensuite dans sa vie future. Comme si cette nouvelle société où les besoins fondamentaux sont satisfaits, parce que cette société, c'est aussi celle d'une forme d'équité dans l'accès à l'alimentation et à la nourriture. Donc, comme si cette société, donc, elle agrandissait, elle élargissait aussi la capacité de chacun à faire des choix. On nous dit avant, manger servait à se nourrir, c'est dans votre livre. Tandis qu'au Foodistan, on a l'impression que manger, c'est exister au sens de s'affirmer, prendre parti, assumer des choix de vie et de société. Il y avait une réflexion là, sur le déterminisme social et sur la capacité à dépasser ça.
Moi, j'aime bien les histoires qui regardent les deux, à quel point on est déterminé et à quel point on peut choisir. Et là, on a l'impression d'avoir plus de choix, mais je ne suis pas certaine quand on regarde de près. On a quand même des préférences alimentaires, on a quand même des choix de vie qui ne sont pas nécessairement ceux de nos parents. Depuis quelques décennies, c'est même tout le temps. Même les enfants de bourgeois ne restent pas forcément bourgeois. En tout cas, c'est une manière de regarder qui va mettre en évidence à la fois le côté déterminé et les choix. Et quand on va plus loin dans le bouquin, notamment quand on entend les conversations entre Maëlle et Clémentine, il y a quand même des échos assez forts à ce que nous, on vit. Est-ce que cette société a réussi l'égalité? On n'est pas sûr. Elle a choisi l'alimentation au détriment de beaucoup d'autres choses. Ça a des conséquences. Et puis, l'égalité, quand on regarde, elle n'est pas si bien réussie. Il y a quand même des couches, il y a quand même le relief qui est la couche inférieure, le la gratin, Macédoine entre les deux avec tous les régimes différents, et au-dessus le gratin. Donc on a quand même encore cette différence qui ressemble bien à nos différences de richesse qu'on peut observer. Et puis on a le hors-d'œuvre aussi qui est carrément sorti de la société, qui n'a pas de compte à rendre. Ça aussi, on l'a déjà. Hein, donc, ouais. Et puis finalement, c'est une manière de raconter. Je travaille donc dans toutes les sphères de ma vie, il y a quand même une cohérence, je travaille sur les questions de récit, et faire un récit, c'est faire des choix, c'est choisir de mettre la lumière sur des choses et de l'ombre sur d'autres, c'est choisir de former un tableau particulier, et l'histoire, elle nous vient par des sources différentes. On a Maëlle qui est passionnée du passé, donc qui va nous raconter avec beaucoup d'enthousiasme. Quelqu'un qui serait moins passionné raconterait différemment. On a accès à ce qu'elle arrive à voir dans son monde. Elle voit beaucoup de choses puisqu'elle est serrurière et que donc elle passe partout. Mais on n'a pas tout. On n'a pas vraiment le portrait complet de cette société. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Ça reste, comme la plupart de mes textes d'ailleurs, une réflexion sur le récit. Comment on raconte quand on est poussé par un intérêt particulier pour quelque chose? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Le mensonge et la vérité, c'était déjà un thème très présent dans l'Évangile, par exemple.
Alors, tout à l'heure, je parlais de ce que ma langue aurait un petit peu fourché, parce que ce livre a une particularité, Foodistan. Il a cette particularité de jouer beaucoup avec la langue. Alors, ces changements s'opèrent dès les premières lignes, de manière très discrète d'abord, puis comme des petites coquilles oubliées. Puis très vite, en fait, s'affirme ce parti pris de transformer certains mots de la langue française, voire certaines expressions, pour en faire une langue gourmande, pour reprendre l'expression de Maëlle, votre personnage principal. Alors, par exemple, la main droite devient la main de la fourchette, on se dégraisse d'un mari plutôt que de s'en débarrasser, on pense avec un A, on ne dit plus comment allez-vous, mais comment mangez-vous. Et ma préférée, les plus riches, on fuit en s'en papillotant dans des caps d'insipidité. Alors surtout, dans ce nouveau glossaire, dans ce nouveau lexique, ce sont les fondamentaux qui changent, puisque la famille devient la vanille, la société devient la satiété. Alors est-ce que derrière ce choix littéraire, il y a une volonté de rendre compte de comment, et surtout à quel point le langage organise notre pensée, évidemment, mais comment les idéologies utilisent ou ont coutume d'utiliser le langage pour infiltrer les esprits et façonner une société tout entière?
Oui, et pour moi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des changements. On ne peut pas se dire que cette société, elle est différente. C'est notre futur, c'est différent. L'accent est porté sur des choses différentes, mais on parle pareil. Ça serait juste absurde. Donc, les choix qui ont été faits, qui ont été des choix très forts, politiques et économiques pour cette société, vont avoir une influence sur ce qui est important pour les gens et comment les gens parlent, et les glissements se font petit à petit. Donc on me dit souvent il y a des jeux de mots, et je rétorque, mais pas du tout. Et il ne s'agit pas de se moquer de la langue des gens, c'est leur langue, c'est leur manière de penser, avec un A, c'est leur manière de voir le monde. On n'a pas à juger, c'est juste une autre langue, et c'est à nous de faire l'effort de nous habituer à lire cette langue-là. Et effectivement, la question de la langue, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que on va favoriser un certain type de langage si on a envie de favoriser un certain type de changement. Et par contre, ce genre de manière de faire de la domination, c'est pas très précis. On sait pas très bien comment ça marche. Est-ce que vraiment changer le vocabulaire change complètement la manière de penser? Et puis qui change le vocabulaire, ça, c'est pas complètement tranché, me semble-t-il. Il y a la langue académique et puis il y a la langue des gens, des vrais gens qui utilisent la langue comme ils veulent, aux grandes dames de l'Académie française qui aimeraient bien pouvoir imposer un certain type d'usage. Mais voilà, en tout cas, je trouve que quand on travaille sur des changements et sur du mouvement, c'est important aussi de faire attention à la langue qui accompagne ou qui précède ou qui est conséquence en fait de ces changements-là.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, au passage, juste une petite parenthèse, on s'aperçoit que vous n'avez pas toujours besoin d'y toucher d'ailleurs à cette langue, puisqu'on on puise déjà généreusement dans le lexique culinaire. Moi, je ne m'en étais pas aperçue en fait, à quel point la langue française, pour exprimer tout un tas d'idées, en fait, puise déjà dans le lexique de la cuisine, quoi.
Oui, et quand j'avais le choix, effectivement, je prenais le mot qui était le plus proche de la nourriture, mais c'est déjà une caractéristique
de la France. En fait, oui, je m'en étais pas aperçue à ce point-là. Tout à l'heure des thèmes qui traversent votre œuvre et tous vos travaux, puisqu'ils sont nombreux, comme vous disiez, vous écrivez sous des formes très diverses.
Oui, depuis, je suis publiée depuis 2003. Je crois que j'écris depuis que je sais écrire. Et donc oui, ça a été l'occasion d'explorer des manières d'écrire différentes, des thèmes très très différents. Et puis j'ai trouvé un terrain de jeu qui ouvre encore les possibilités, puisqu'en science-fiction, on n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par quoi que ce soit. Donc effectivement, ça fait beaucoup.
Le temps, c'est d'ailleurs un des thèmes.
C'est un de mes thèmes obsessionnels, et je suis en train de finir un recueil sur le thème du temps.
Ouais. Il y a notamment le recueil de nouvelles Tempus Fugit sur votre site.
Alors Tempus, c'est un texte qui va être dans le recueil avec d'autres textes sur le temps. Mais alors oui, je comprends pourquoi vous en parlez comme un recueil, mais c'est un texte.
Okay.
C'est un texte en lasagne,
oui.
Comme la plupart de ce que je fais.
C'est-à-dire
qu'il y a c'est polytextuel, il y a de la poésie, il y a des bouts de récits, il y a des listes, comme Foodistan d'ailleurs. Enfin, deux textes-là, je pense que c'est ceux qui me ressemblent le plus, le côté un peu foutraque, mais un peu cohérent quand même. Et donc oui, Tempus Fugit est disponible en ligne, puisqu'il a été publié deux fois. Une première fois aux éditions Klinamen en 2000. Je ne sais pas, 21. Et en 2022, il a été repris donc en bilingue dans une revue américaine qui s'appelle Samovar et qui republie des textes qui existent. Donc voilà.
D'accord. Et puis, vous parliez aussi de l'importance du thème du récit dans votre travail. On parlait tout à l'heure de l'Évangile selon Myriam. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire. Enfin, on devine, en fait, là encore, au fil des pages, qui raconte l'histoire d'une jeune fille à qui on aurait confié, ou qui se serait confiée elle-même l'objectif de recréer un récit collectif qui pourrait guider le groupe de personnes qui restent sur la Terre. Elle écrit: sans un rêve collectif, sans un destin partagé, nous ne sommes rien de plus qu'un peuple prisonnier, un assemblage de personnes formées par la force des choses, condamnées à l'interdépendance.
Oui.
Alors, quelle place ça occupe dans votre vie?
Le récit. En fait, je pense que j'ai l'air d'être faite de chair et de sang, mais je suis faite de récits. Et en particulier de récits bibliques, parce que travailler sur l'évangile selon Myriam, en tout cas pour les parties qui se réfèrent à la Bible, je pense que c'est un des rares textes où je n'ai pas eu besoin de faire de recherche, puisque j'ai grandi dans une église, les Adventistes du septième jour, dans une famille qui était encore plus religieuse que les autres, puisque mon père était prédicateur. Donc j'ai dû lire la Bible, je ne sais pas, 3-4 fois en entier. J'ai discuté avec mon père... par verset interposé, parce que sinon ça ne l'intéressait pas. Donc voilà, il y a quelque chose déjà dans le rapport au récit qui est premier. Et puis ben, voilà, grandir avec ces récits-là. À côté, il y avait d'autres récits qu'on retrouve dans Confession d'une séancière, qui est un livre dans lequel je reviens sur les contes et légendes des Antilles que j'entendais quand j'étais petite. Alors je les entendais un peu... par en dessous des portes, hein, parce que nous, c'était vraiment la religion d'abord. Mais j'entendais ces histoires et puis je devinais que ça permettait d'organiser un peu la vie, de permettre certains crimes aussi, notamment. Donc, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ces histoires-là, que j'ai reprises plus tard dans ce recueil. Et il me semble que, oui, j'ai traversé une grande partie de mon existence comme ça, en récoltant des récits, en essayant de comprendre ce qu'ils racontent, en reformulant des récits. J'ai écrit mon autobiographie en 2012. C'était aussi reprendre possession de récits qui m'échappaient. Enfin voilà, donc c'est absolument partout. Et en tout cas, j'ai découvert à la fois le pouvoir des récits, le pouvoir que nous donne notre récit de nous-mêmes pour pouvoir aller mieux. Même bien, parce que je crois que je vais bien. Et puis, comment le récit permet de dire le monde ? Je conçois vraiment le récit comme étant une interface entre le monde qui est extrêmement complexe et nous, avec nos limitations et nos petits cerveaux qui essayons de comprendre comment ça marche. Et avec une histoire, on arrive à accéder à quelque chose, une compréhension à peu près de certains phénomènes. Et donc, pour moi, il faut multiplier les récits. Enfin, il faut vraiment avoir accès à énormément de récits. Et j'essaie d'en construire aussi parce que ça m'aide, moi. Quand j'écris des histoires, ça m'aide à comprendre un certain nombre de choses. Et quand je donne la possibilité aux gens d'écrire aussi, j'ai l'impression que ça fait des choses. Et les gens à qui je donne la possibilité d'écrire, donc ce n'est pas seulement mes patients, mais je fais aussi pas mal d'ateliers d'écriture pour des gens qui ne se sentent pas à l'aise pour écrire. Et là, notamment, depuis que je suis à Nantes, j'ai commencé un atelier d'écriture mensuel dans un bar qui s'appelle La Licorne Noire.
D'accord.
Et donc, ça s'appelle le DED. C'est un dispositif d'écriture pour adultes qui doutent.
D'accord.
Et on prend le taureau par les cornes. Et voilà, la dernière fois, c'était la semaine dernière, on avait laissé une chaise vide pour le doute, qui était donc avec nous et qui a participé à l'atelier. Voilà.
Sans trop vous envahir, j'imagine.
On l'a laissé à sa juste place.
Voilà.
C'est la place au moment où on relit, pour donner des conseils pour faire mieux, mais pas nous empêcher d'écrire.
Voilà. Très bien. Le doute à sa place, c'est bien, je trouve. Essayer de le contenir dans ses ambitions.
En faire un allié, c'est le but, en fait. C'est vraiment le but.
Ouais.
Il sert à quelque chose.
Bon, là, je pense qu'on va entamer une séance, là, si vous me lancez là-dessus.
Je ne me lancerai pas là-dessus, mais je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, la dernière séance, on a donné un nom d'animal. En fait, on a associé nos doutes à des animaux et c'était hyper intéressant pour pouvoir entrer en contact avec le doute et puis ensuite écrire.
Les animaux qu'on peut domestiquer et ceux qui sont...
Qu'on peut rencontrer.
De grands prédateurs.
Voilà. Qu'on peut apprendre à connaître.
Je vais réfléchir à
tout. Tout n'est pas combat.
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes psychologue et vous exercez au CHU de Nantes auprès des personnes âgées et vous menez aussi en parallèle un travail de chercheuse. Donc, votre sujet de recherche initial, celui de votre thèse, c'était la place du récit dans le soin.
Oui, en fait, j'ai travaillé en psychiatrie de la personne âgée et j'ai conçu et testé un dispositif d'accompagnement par l'écriture, donc pour les patients âgés. que je propose donc à l'hôpital Bélier, au CRPPA, donc Centre Ressources en Psychiatrie de la Personne Âgée. Et l'idée, c'est d'être en groupe et de travailler son récit de vie. Donc nous, on l'appelle le GTA, parce que c'est drôle. Et c'est le groupe thérapeutique autobiographique.
D'accord.
Où les personnes viennent, donc il y a une dizaine de séances, et chaque séance, il y a un thème qu'on va évoquer ensemble à partir d'éléments culturels autour du thème. Donc les thèmes, ça va être la famille, l'argent, la mort. Et donc on en parle comme étant un sujet extérieur à nous, puis chaque personne raconte dans son cahier une histoire, une anecdote, un souvenir en lien avec le thème. Et l'intérêt, c'est de permettre à des personnes donc, qui ont une mémoire particulière qu'on appelle la mémoire dépressive, de retrouver quelque chose un peu plus ouvert. Quand on est dépressif, on va se souvenir très facilement des choses horribles qui nous sont arrivées dans la vie, parce que c'est en cohérence avec l'état dans lequel on se sent. On va se souvenir de sa vie comme quelque chose qu'on a subi et pas quelque chose dans lequel on a pris des décisions. Et puis les souvenirs vont être ce qu'on appelle surgénéralisés, c'est-à-dire que je vais me souvenir d'être allée pendant 10 ans chaque année à une plage particulière, mais je ne vais pas me souvenir d'un élément précis dans le temps. Donc ça, on connaît les caractéristiques de la mémoire dépressive. Et l'idée de ce dispositif, c'est d'aller chercher des souvenirs qu'on ne met pas naturellement dans son récit de vie pour pouvoir remettre de la nuance. Donc pas forcément chercher du positif, mais remettre des éléments qui ne viennent pas naturellement, les confronter avec les récits des autres personnes. Et puis là, il y a tout le travail aussi de la psychologue hein, qui va faire des relances, poser des questions, pousser la personne à retrouver en fait qui elle était, parce que parfois c'est ce qui arrive aux personnes, elles se rappellent plus qu'elles avaient des capacités, elles se rappellent plus qui elles étaient, et dans ce dispositif en fait elles retrouvent un peu de ressources et puis un lien un peu plus sain, on va dire, à leur vie, à leur histoire de vie,
moins cloisonné quoi.
C'est ça.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes devenue nantaise.
Oui, c'est ça. Alors Nantes, je connaissais déjà, puisque ça fait très longtemps que je viens au Festival Les Utopiales, notamment en tant qu'autrice de science-fiction. Et puis l'année 2024, donc j'étais invitée, j'avais un certain nombre de participations. Et peu de temps avant le festival, l'équipe m'a appelée un peu au secours en me disant « On a un désistement sur une table ronde, ça parle de santé mentale, est-ce que tu veux bien nous dépanner ?» J'ai dit « Oui ». Et sur ce panel, il y avait Samuel Bulteau, qui est mon chef aujourd'hui.
D'accord.
Donc, que j'ai contacté comme les autres participants pour essayer rapidement de préparer une table ronde et qu'elle soit un peu intéressante. Et là, il a regardé ce que je faisais et il s'est dit que ça tombait très bien parce qu'il y avait un poste. Ce qu'il m'a proposé, d'ailleurs, je n'ai pas accepté tout de suite parce que... Enfin, les Parisiens qui n'ont pas décidé de quitter Paris, voilà.
Mais bon, vous les accompagnez ?
Ben, faut leur faire comprendre qu'il y a un monde à l'extérieur, hein, c'est comme ça. Et quand il m'a dit que la recherche faisait partie du poste, là, c'est ce qui a été le déclic, puisque ben, j'avais soutenu ma thèse et j'avais du mal, en fait, à poursuivre des activités de recherche dans une unité qui n'était pas une unité de recherche. Donc, ça a été voilà, le déclic et j'ai fait très bien, j'arrive. Donc, je l'ai rencontré en novembre et en février, je commençais à travailler au CHU, je suis très contente.
Et donc Nantes, ça vous convient tout à fait ?
Mais c'est super, parce qu'en plus, la qualité de vie et tout ça, je l'ai eu de surcroît, puisque je n'avais même pas réfléchi à tout ça. Je me suis dit, ok, je vais pour ce boulot.
Ah oui, donc c'était un plus inattendu, quoi.
C'est ça.
De cet entretien, j'ai parlé brièvement de votre parcours. Alors, comment en êtes-vous venu à l'écriture ? Y a-t-il des lectures qui ont marqué votre enfance ou votre adolescence et qui seraient à l'origine de votre besoin d'écrire ?
Alors, pas de parcours pour moi. J'ai une grande marmite devant moi et il y a des choses dedans et parfois j'enlève des choses et parfois je rajoute des choses et je vais nulle part. Voilà, j'ai pas de destination particulière, enfin la mort comme tout le monde, mais voilà, c'est pas passionnant comme destination. Mais on a parlé déjà d'une lecture qui m'a marquée. Hein. On a parlé de la Bible.
Ouais, ouais, ouais.
Ce qui est quand même une espèce de livre qui fait à la fois de la fantasy, avec de la magie, avec des créatures.
Tous les ingrédients de la marmite.
Et puis, il y a même de la science-fiction, il y a même le futur, il y a l'apocalypse. Enfin, voilà, il y a tout dedans.
Toutes les réponses à nos questions.
Bah justement, voilà, c'était le problème d'avoir un livre aussi massif qui explique tout, qui doit vous dire comment vous devez vivre. Mais bon, il faut quand même un peu l'interpréter parce que c'est pas très clair. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Forcément, on donne ça à un enfant, ça donne envie d'aller regarder ce qu'il y a dehors. Et d'imaginer un dehors quand on n'arrive pas encore à voir qu'il existe. Donc je pense que oui, s'il y a un livre fondateur, c'est bien celui-là. Très, très massif et très, très présent. Et puis, j'étais une enfant qui vivait avec deux frères, un grand frère, un petit frère, et on lisait énormément. Et on passait beaucoup de temps dans les bibliothèques. Donc, je pense qu'on a emprunté tout ce qu'on pouvait emprunter. Parfois, on allait à deux bibliothèques différentes. On avait droit à 6 livres à la bibliothèque municipale, 10 livres à la bibliothèque de Fort-de-France, puisque je vivais en Martinique. Et oui, on vivait dans les livres, donc c'était une évidence, les livres. Et moi, j'étais pressée d'apprendre à écrire pour écrire des livres. Enfin, il y avait quelque chose de... Or, je n'avais aucune idée du fonctionnement des maisons d'édition, l'économie du livre, etc. Mais c'était... pourquoi apprendre à écrire si ce n'est pas pour écrire des livres ? Bon, je ne savais pas que j'allais écrire des comptes rendus d'entretien clinique, que j'allais écrire des courriers de réclamation aux impôts. Enfin, voilà, c'est moins passionnant, mais...
Il faut le faire pourtant.
Mais voilà, en tout cas, j'ai eu envie d'écrire très vite et je suis rentrée dedans. Enfin, vraiment, si vous la voyez, l'image là, du chaudron devant, ben, j'ai juste j'ai sauté dedans et je suis restée dedans.
Bien au chaud. Alors, dans Samouraï, on parle aussi des rituels d'écriture sur la mise au travail des écrivains. Ce qui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est déjà très obscur quand on est petit et qu'on aime écrire. Mais ça reste encore très obscur pour celui qui n'écrit pas ou celle qui n'écrit pas. Alors, est-ce que vous en avez, vous, des rituels d'écriture ? Est-ce que vous vous imposez des contraintes quand vous vous mettez au travail ?
Alors, je peux répondre de plusieurs manières à ça. La première réponse, c'est qu'en fait, je suis une personne qui écrit. C'est ça que je suis d'abord. Donc, je passe mon temps à ne pas écrire. Pour faire des choses-là, je vous parle, donc je ne suis pas en train d'écrire. Quoique, il y a un bout de cerveau en train de bosser.
Je vous ai vu d'ailleurs un peu écrire.
Sur un texte, oui. Et je prends des notes. Enfin, j'ai besoin d'être en train d'écrire. Donc, effectivement, je passe mon temps à ne pas écrire. J'en discutais avec une amie écrivaine qui m'expliquait comment elle fait pour se mettre en état d'écrire. Et quand je lui disais, souvent le matin, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'écris une demi-heure. Elle, ça lui donne des angoisses parce qu'une demi-heure, c'est le temps qu'il lui faut pour se mettre en état. Elle me parle de musique, elle me parle de se mettre dans un état particulier. Moi, c'est là que j'habite, dans cet état. Et effectivement, je passe plus de temps à ne pas être en train d'écrire qu'être en train d'écrire. Donc, quand j'ai besoin d'écrire, j'écris. C'est aussi simple que ça. Après, j'accompagne des personnes, notamment les ateliers d'écriture que je fais. Donc, je parlais du mensuel, mais j'interviens aussi pas mal dans des médiathèques, dans des endroits où on veut bien de moi. Et je fais des ateliers d'écriture. Et là, je sais qu'il faut prévoir d'accompagner les personnes dans le passage à l'écrit. Et donc, ce que je leur propose, c'est de faire un peu des choses que moi, je peux avoir envie de faire, des moments où ça devient un peu compliqué, où je sais pas trop où je vais, où je pars dans tous les sens. C'est jouer. Donc, c'est vraiment le jeu qui me semble une activité très proche de l'écriture. C'est très sérieux, le jeu. C'est très important et en même temps, c'est pas si important que ça. Donc, on est à un endroit où, on se laisse aller, on est dans l'instant présent et on joue. Et pour jouer, notamment, j'utilise les story cubes.
D'accord.
Donc, des dés avec des images qu'on lance et il se passe quelque chose. Et par exemple, pour Foodistan, j'étais en train d'écrire mon histoire. Et j'avais ce personnage, Maël, qui s'est présenté, qui participait à l'histoire, en fait. Et je me suis dit, ce serait quand même bien qu'elle ait un métier, qu'elle ait une vie, parce que... on ne la connaît pas. J'ai lancé un dé, j'ai eu une serrure et elle est devenue serrurière.
D'accord.
Ce qui était extrêmement pratique pour pouvoir rentrer dans d'autres maisons. Ça a résolu plein de problèmes qui ne s'étaient pas encore posés. Mais je joue, enfin voilà.
On est à la frontière entre les règles et le plaisir.
C'est ça. Ouais. Quelque chose qui va aussi... En fait, souvent, les gens me disent « j'ai pas d'idée ». Alors, ça arrive, c'est très rare que les gens n'aient vraiment pas d'idées. Mais la plupart du temps, c'est qu'on a trop d'idées et qu'on ne sait pas choisir ou qu'on se juge déjà en train de dire « non, mais cette idée, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas bien, etc. etc. » Et donc, on lance un dé et c'est le hasard qui va décider pour vous, qui va fermer un peu les possibilités et vous mettre sur les rails. Donc, donc ça, je conseille, je le pratique aussi. Voilà. Et dans le côté routinier, j'ai aussi donc une routine que je maintiens depuis novembre 2020.
Ah, quand même, donc c'est une bonne routine bien installée.
Oui, alors moi, j'étais quelqu'un qui avait horreur des routines. Et puis, automne 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez où on était en automne 2020. C'était le deuxième confinement. Moi, je changeais de métier. Je n'étais pas sûre de pouvoir commencer ma thèse et commencer mon nouveau métier. Et il y avait de l'angoisse un petit peu partout. Donc, on a tous des astuces quand on est angoissé. Moi, j'en ai deux. Principalement, quelque chose en lien avec l'écriture et quelque chose en lien avec les maths, parce que c'est... Voilà, j'ai fait des maths en premier.
D'accord.
Et ça m'aide, ça me cadre. Donc, j'ai fait un MOOC de statistiques inférentielles. Donc, j'ai réappris des maths tranquillement, voilà. Et j'ai mis en place ce rituel donc, qui s'appelle Write Ever, qui est un défi d'écriture... Qui existe encore en ligne, en fait, qui marche comme un peu comme Inktober. Donc, alors, je reviens à la
merci.
Donc, Inktober, sur les réseaux, éclairé. C'est au mois d'octobre, il y a une liste de mots
d'accord.
proposés,
ah,
un par jour du mois d'octobre. Et chaque jour, les personnes qui dessinent sont invitées à dessiner quelque chose en lien avec le mot.
D'accord.
Donc, de Inktober est venu Writeover.
D'accord.
Donc, c'était à l'époque sur Twitter où on proposait aux personnes d'écrire une micro-histoire
d'accord.
d'un tweet, donc moins de 300 signes, en lien avec un mot. Donc, en octobre 2020, j'ai participé pour la première fois à Writeover
okay.
et ça m'a fait tellement de bien que novembre, angoisse, mathématiques, tout ça... je me suis dit, je vais continuer.
Okay.
Et ça va s'appeler Write Ever parce que c'est forever. Et puis,
d'accord.
on verra okay. jusqu'où ça nous mène. Donc, je me suis dit, si on est une dizaine de personnes à le faire, ça sera très bien. Et je maintiens. En fait, on a vite été une trentaine, parfois une centaine. Enfin, ça dépendait. Il y avait... bon, en tout cas, il y a encore des gens qui le font. Et chaque mois, on publie une liste de mots. Donc, 30 quand c'est un mois à 30 jours.
D'accord.
Et on écrit en fait un texte chaque jour en lien avec le mot.
Très bien.
Et depuis avril 2021, je fais deux textes, puisque je fais un en anglais, un en français,
d'accord.
deux histoires différentes. Et aujourd'hui, je suis en retard de deux jours. Ce qui est assez exceptionnel parce que je ne suis jamais en retard. En fait, je l'ai fait tous les jours et là, j'ai un peu lâché. Mais je vais les faire ce soir.
Très bien. Donc, on peut participer, on peut
et
collaborer.
Tout le monde peut participer. Il y a des gens qui viennent, qui font un mois.
Ouais.
Alors, la plupart du temps, quand on commence, on fait 7 jours et puis on oublie, on arrête, on n'y arrive plus.
Ouais.
Et on revient. Mais ce n'est pas grave, en fait. Et donc, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Il y a des personnes. Alors, je connais une personne qui a fait tous les thèmes sauf un.
Eh bien, dis donc.
Depuis, à part moi.
À part vous, ouais. Mais justement, ça tombe très bien que vous parliez de mots parce que c'est aussi une des questions qu'on pose dans cette émission aux invités. C'est est-ce que si vous deviez choisir un mot, alors là, ça ne va pas être facile pour vous, mais choisir un mot qui résumerait votre projet d'écriture, enfin pas votre projet d'écriture, mais votre travail de création, si vous deviez
choisir. Ah, mais je l'ai ce mot.
Ah, comme ça, tout de suite.
C'est le mot pluralité. C'est là que j'habite.
Très bien.
Non seulement la pluralité des activités et des passions, mais aussi une attention à prendre en compte la pluralité des personnes. Enfin, Et c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Se rappeler qu'on n'est pas tous les mêmes et que c'est super qu'on ne soit pas tous les mêmes.
Et puis la toute dernière question avant de nous quitter, et c'est de choisir une musique qui fait aussi office de générique. Une musique qui évoque pour vous, ou pas hein, d'ailleurs, on m'a déjà répondu le silence. Mais une musique, un morceau, quelque chose, un instrument que vous pourriez associer à vos...
À mon travail d'écriture ?
Oui, à votre travail d'écriture, à vos récits.
Waouh. Bah, peut-être une chanson que j'ai écoutée il n'y a pas très longtemps et que je chante d'ailleurs parfois, qui s'appelle Feelings. Donc, l'original est de Maurice Albert, mais la version que j'adore, c'est celle qui est chantée par Nina Simone au Montreux Festival, puisque c'est en 76 peut-être.
D'accord.
Et qui est une espèce de sac d'émotions qui vous attrape. Une chanson qui est là comme ça, un peu sucrée dans sa version originale et que elle va rendre lourde d'émotions. Et voilà.
Bah, très bien. Merci beaucoup. On va écouter ça maintenant. Alors. Merci beaucoup, Katie Stewart, d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
Merci à vous.
À très bientôt.
Nothing more than feelings, feelings of love, you know that.
Allez vite lire et découvrir Le Foodistan de Katie Stewart, publié aux éditions Argile et disponible dans toutes les bonnes librairies. Saleté d'hormones et autres complications est également disponible aux éditions Cotter. Voilà, Samouraï, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur la page Samouraï du site jetfm.fr. Rendez-vous un prochain jeudi à la même heure pour un nouveau Samouraï.
Trying to forget all my feelings of love. God damn. I mean, you know what? What a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making mad at fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Well, come on, clap, damn it. What's wrong with you? For all my life, I feel it. I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. Feelings, come on. Oh, 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 feelings. Whoa. Again in my heart. Again. Feelings. Feelings that I never met you. Feelings that I'll never even saw you again in my heart. feelings. I swear of all my life I feel it. Hold on. I wish I never lived this long. Never comes again. Feelings, feelings like I never lost you, and feelings like I never really had you. Here in my arms. Come on, let's hit the climax. Feelings. You know the song, man. Oh, 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 feelings. Oh, 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 feelings. Again. You go so soon and so embarrassingly soft. So let's please, of course, feel. Oh, feed me, feed me, feed me. Thank you.